Il est 5h.
Il y a une pandémie sanitaire et une pandémie numérique actuellement. Il faut renforcer très rapidement les effectifs, renforcer aussi une politique pénale. Véritablement, il y a une urgence.
Urgence pour lutter contre la cybercriminalité. C'est le cri d'alarme de cette magistrate. Piratage, détournement de fonds, attaque de systèmes informatiques. Aujourd'hui, le cybercrime paye et il paye bien. Son économie pèse deux fois plus lourd que le PIB de la France. La Haute Autorité de Santé valide l'usage des tests antigéniques et d'autres test pour les moins de 15 ans. Et puis dans ce journal, nous irons en Italie. L'Italie qui rouvre bars et restaurants. Et à Nice, où l'on s'y prépare, la ville niçoise a même un plan stratégique pour doper son tourisme.
À suivre, votre journal 10 des sports et notre pressing du matin. Et puis on sera dans l'Oise à Roy-Boissy pour les doigts dans l'assiette avec notre éleveur polyculteur Lux Messert. Très bon réveil sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quel secteur d'activité pèse plus lourd que l'économie de certains États ? Eh bien, c'est la cybercriminalité. La cybercriminalité dont la valeur est estimée à 6 000 milliards de dollars en 2021. Pour info, c'est à peu près deux fois plus que la France. Ce pourrait être 10 000 milliards même dans 4 ans. C'est le constat d'un rapport du Club des juristes qu'Europe 1 vous dévoile ce matin en exclusivité. Marion Dubreuil, force de sécurité, magistrat, entreprise et assurance, partage cet état des lieux du risque cyber qui grandit.
Oui, personne n'est épargné. 90% des entreprises ont été impactées en 2019. Près de la moitié sont des PME. Le télétravail a accentué le phénomène et c'est devenu la source de 20% de la cybercriminalité. 5 dollars, c'est le prix moyen d'un virus informatique. Et cela rapporte très gros. Si le risque cyber poursuit sa croissance annuelle de l'ordre de 15%, il pèsera plus de 10 000 milliards de dollars d'ici 4 ans. Le numérique, c'est le nouveau terrain de chasse du crime organisé. Responsable de plus de la moitié des cyberattaques, nous rappelle Myriam Kemener, avocate générale à la Cour d'appel de Paris.
Les réseaux mafieux se mettent en contact avec des informaticiens, en particulier l'ancien bloc soviétique, où il y a des compétences en mathématiques, en informatique, mais peu d'emplois. Il y a une pandémie sanitaire et une pandémie numérique actuellement. Il faut renforcer très rapidement les effectifs, renforcer aussi une politique pénale. Véritablement, il y a une urgence.
Le Club des juristes enjoint donc le gouvernement à faire de la cybersécurité une cause nationale dès l'an prochain pour améliorer notamment l'entraide internationale et lutter contre les pays sanctuaires qui sont aujourd'hui les paradis fiscaux des cybercriminels.
Marion Dubreuil.
Et on en parle donc avec l'homme qui a commandé ce rapport, Bernard Spitz, président de la commission cybersécurité du Club des juristes. Il sera mon invité à 6h40 en direct. Les enfants, Simon Rubin, vont pouvoir faire des tests antigéniques et des autotests.
Oui, la Haute Autorité de Santé autorise ces tests pour les moins de 15 ans désormais dans un communiqué publié hier soir. L'organisme recommande un usage régulier de ces tests, notamment à l'école, pour briser les chaînes de contamination. Johanna Chabas.
Jusqu'à présent, il fallait avoir 15 ans pour faire un test antigénique ou un autotest. Mais à la lumière de nouvelles analyses, la Haute Autorité de Santé estime qu'ils peuvent être maintenant pratiqués sur tous les enfants. Selon l'organisme, ces tests par prélèvement nasal offrent une rapidité de résultats, entre 15 et 30 minutes pour savoir si l'on est positif. Ils sont également moins invasifs que les tests PCR car les écouvillons vont moins loin dans le nez. Ils sont donc plus adaptés aux jeunes enfants et peuvent être utilisés de manière répétée. Autant de qualités qui font de ces tests des outils pour casser les chaînes de contamination à l'école, conclut la Haute Autorité de Santé. Elle recommande que ces tests soient réalisés au moins une fois par semaine en milieu scolaire, avec différentes règles selon les âges. Les collégiens pourront le faire eux-mêmes, comme les lycéens et les étudiants. Pour les élèves en primaire, il est préférable qu'un parent ou qu'un personnel formé s'en charge. Et pour les enfants en maternelle, le test devra impérativement être réalisé par un adulte.
Johanna Chabas, et après 6 semaines d'un énième confinement, eh bien l'Italie rouvre ses bars, ses restaurants et cinémas cette semaine. C'est en tout cas ce qui se passe dans une très grande partie du pays où le bilan épidémique est bon et un pays donc qui retrouve un peu de liberté. C'est par exemple le cas à Rome où Blandine Hugonnet a promené son micro auprès d'Italiens, évidemment ravis.
Le centre de Rome s'est animé immédiatement dès la réouverture des restaurants et des bars. Claudia et Luisa sont venues fêter cette reprise avec un spritz en terrasse.
On profite de pouvoir être assise à table, on est vraiment trop contente d'être posée dehors.
Les relations sociales nous manquaient, enfin un peu de vie.
Les restaurants ont rouvert jusqu'au soir, mais les lieux culturels aussi. Pendant que certains Romains profitent de cette Dolce Vita en extérieur, d'autres préfèrent retrouver le plaisir d'aller voir un film sur grand écran, comme Maria qui fait la queue devant un petit cinéma, enthousiaste à l'idée de retrouver les salles obscures.
Le cinéma m'a tellement manqué. Retrouver un peu de vie culturelle, c'est une façon de célébrer un nouveau départ. Ça suffit d'avoir peur, on n'en pouvait plus.
Mais après le cinéma ou un restaurant en terrasse le soir, retour à toute vitesse à la maison, le couvre-feu de 22h est maintenu au niveau national et les contrôles de police sont renforcés alors que le nombre de morts en Italie est toujours élevé, environ 300 par jour. Pas question de provoquer un rebond de l'épidémie avant l'été. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.
Et puis l'Union européenne attaque en justice le laboratoire AstraZeneca pour ne pas avoir tenu ses engagements sur les livraisons de son vaccin anti-Covid. AstraZeneca qui n'a livré au premier trimestre aux pays de l'Union européenne que 30 millions de doses sur les 120 millions promises.
Et au volet politique en France, le dispositif des élections régionales en pleine pandémie se précise.
Des élections qui se tiendront les 20 et 27 juin prochains, ça on le savait. Après une réunion hier autour d'une ministre de l'Intérieur avec des représentants des partis politiques, des groupes parlementaires, des associations d'élus, eh bien on en sait désormais plus sur l'organisation de ces élections, notamment pour limiter le risque sanitaire, Hélène Terzian.
Ceux qui diront à voter seront vaccinés en priorité. Le jour du scrutin, non seulement un protocole sanitaire strict sera appliqué, mais la clé, c'est donc la vaccination. Tous les membres des bureaux de vote, présidents, assesseurs, secrétaires et les fonctionnaires municipaux mobilisés recevront une attestation délivrée par le maire. Ils pourront alors se faire vacciner dans des créneaux réservés dès maintenant et ce jusqu'au 5 juin. Le soir du vote, si vous souhaitez dépouiller les bulletins, la priorité sera donnée aux personnes vaccinées ou immunisées. Sinon, il faudra disposer d'un test négatif de moins de 48 heures. Enfin, pour limiter la circulation du virus, des bureaux de vote en extérieur pourraient être autorisés. Selon nos informations, la campagne est elle aussi adaptée. Un candidat et son équipe pourront déroger au couvre-feu pour faire du porte-à-porte, par exemple. En revanche, malgré la demande de certains partis, les meetings en intérieur et en extérieur seront interdits. Les plus malins retiendront que les manifestations, même statiques, restent autorisées à condition d'avoir été déclaré en préfecture.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. Des centaines de personnes pour soutenir la famille de la policière tuée à Rambouillet vendredi dernier. C'était hier, sur le parvis de l'hôtel de ville. Hommage en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de Gérard Larcher, le président du Sénat notamment.
Dans la foule au premier rang, derrière les barrières métalliques, Raymond, ancien policier à la retraite, proche de la victime. Il était là quand elle a commencé au commissariat de Rambouillet. Il témoigne au micro de Justin Morin.
C'est très dur. Je l'ai vu arriver, commissariat. Voilà, elle a été formée beaucoup par nous tous, les anciens. C'était une fille qui était très, très, très gentille. On pouvait demander n'importe quoi, n'importe quel moment, même la nuit. Elle était présente, tout le temps présente. Jamais un geste de nervosité ou une parole désobligeante. Jamais, jamais, jamais. Pour dire, c'était pas parce que c'est mon ami, c'était une femme hors norme. Qu'est-ce que vous voulez, c'est foudroyant, on ne peut pas expliquer, il n'y a pas de mots pour exprimer un geste pareil. On ne peut pas se figurer que sur cette terre, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier une personne, une famille qui va être traumatisée à vie. À vie, c'est dramatique, je suis anéanti.
Voilà. Le témoignage recueilli par Justin Morin.
On vous parlait enfin un peu plus tôt dans ce journal des Italiens qui savourent la réouverture des bars et des restaurants dans certaines villes, voilà qui donne envie. À Nice, Simon Rubin n'en est pas encore là, mais on se prépare tout de même pour le retour du tourisme en misant sur l'hôtellerie de luxe.
Et oui, on a profité du Covid pour revoir la stratégie économique, commerciale, marketing de toute la ville où les chantiers fleurissent. Ici, on retravaille et on retape des restaurants et des hôtels haut de gamme. Là, eh bien, on en construit de nouveau. Le reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Dans toute la ville, des travaux. Casque sur la tête, Christian Estrosi, le maire de Nice, visite le chantier d'un palace où tout a été rénové, des sous-sols à la terrasse panoramique.
D'ici 3 ans, nous aurons à peu près 3000 chambres de haut de gamme de plus, qui représentent un chiffre potentiel annuel de près de 200 millions d'euros, capacité de création d'emplois de 800 emplois. Si ces investissements se positionnent à Nice, c'est parce que Nice a gagné en compétitivité, que nous avons des projets connus, identifiés.
Notamment un tout nouveau parc des expositions et des congrès qui ouvrira ses portes fin 2024, mais pour accueillir une clientèle haut de gamme, Nice fait sa révolution hôtelière. Eric Talou est manager général du Crown Plaza, l'établissement vient d'ouvrir.
Le parc hôtelier de la globalité de la ville est en train de se construire, soit se rénover, des 4 étoiles qui vont devenir 5 étoiles dans le centre de Nice, c'est de la création d'emplois, c'est de la création de richesses, c'est aussi de la visibilité pour la ville de créer une offre hôtelière internationale.
À 2 pas de la place Masséna, Stéphane Villard dirige l'emblématique Plaza.
L'hôtel a fermé ses portes il y a un peu plus de 2 ans et le projet était déjà de le rouvrir en 5 étoiles. Nice avait besoin d'étoffer un tout petit peu ce niveau d'hôtellerie.
À l'instar de Monaco et Cannes, Nice veut aussi devenir une destination de luxe.
Le reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Dans le journal de Simon Rubin. Merci Simon, il est 5h10. Et surtout avec Axel Metz ce matin. Axel, c'est toujours un événement dans le monde de la voile, la mise à l'eau d'un nouveau bateau.
Ouais, surtout quand il s'agit d'un géant des mers, Banque Populaire 11, un maxi trimaran de 32 mètres de long sur 23 de large, je ne sais pas si vous visualisez, hein, capable de survoler les flots grâce à d'immenses foils. Vous savez, ces appendices qui sortent de l'étrave et qui permettent à grande vitesse de réduire au maximum les contacts entre la coque du navire et l'océan. Ce gigantesque voilier de dernière génération, c'est celui d'Armel Lecléache. 2 ans et demi après la casse brutale de son trimaran lors de la route du Rhum, le skipper breton a fait part de son émotion à Corinne Boulou.
C'est toujours un moment incroyable, plein d'émotions parce qu'on sait tout le travail qui a été fourni. Je pense que pour tous les gens qui ont travaillé sur le bateau, c'est comme une naissance et ça sera un moment important pour nous tous ici à Lorient. Et après, très vite, effectivement, on va aller naviguer au large de Lorient pour commencer à tester le bateau, le prendre en main. Cela va prendre un petit peu de temps. On a un gros mois de mise au point pour vraiment régler tous les systèmes de navigation avant d'aller tester le bateau en Atlantique.
Et une première course au large, ensuite en duo. Armel Lecléache disputera la Transat Jacques Vabre cet automne avec Kevin Escoffier. J'en profite aussi pour vous signaler que le parcours du prochain Tour de France à la voile en juillet a été dévoilé. 9 étapes qui iront de Dunkerque jusqu'à, c'est original, au lac de Serre-Ponçon dans les Alpes.
Très bel endroit.
Compétition réservée aux voiliers de 7,25 m.
Le football à présent, Axel May. Une première demi-finale de la Ligue des Champions ce soir.
Le Real Madrid de Zidane reçoit le Chelsea de Thomas Tuchel à 21h. Demain, ce sera PSG-Manchester City. Un golfico, comme on dit, rencontre entre d'un côté un club détenu par le Qatar, de l'autre une équipe propriété d'Abu Dhabi. En début d'année, le conflit économico-diplomatique a pris fin entre les deux voisins du golf. Mais vous l'aurez compris, l'enjeu de cette demi-finale de Ligue des Champions dépasse le simple cadre sportif. Pascal Boniface, grand amateur de ballon rond, dirige l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
Ça dégénérera pas en affrontement militaire, ça laissera des traces symboliques, des traces d'amour propre. Et celui qui aura perdu sera d'autant plus amer qu'il a perdu contre son rival principal. Et il est moins douloureux pour le PSG de perdre contre le Bayern ou le Real de Madrid que contre Manchester City. Et sera moins douloureux pour Manchester City de perdre contre Tottenham ou Liverpool que contre le PSG.
Pascal Boniface avec Cyril de la Morinerie. Et puis en football toujours, l'équipe de France olympique connaît son programme pour les JO. Les petits bleus, hein, il faut avoir moins de 21 ans plus 3 joueurs sans limite d'âge, affronteront le 22 juillet le Mexique. Puis ce sera le 25 l'Afrique du Sud et le pays hôte, le Japon, le 28 juillet.
Encore faut-il, Axel May, que ces jeux aient lieu.
Ouais, car ce qui est acquis, c'est que le public étranger ne pourra pas venir. Ce qui est acquis aussi, c'est que la situation sanitaire se dégrade de nouveau à Tokyo.
Alors, état d'urgence sanitaire.
Il reste encore des interrogations sur la tenue de ces jeux déjà reportés d'un an. Tony Estanguet, le patron des Jeux de Paris en 2024.
Depuis un an, quand même, la situation est vraiment extrêmement difficile pour le Japon. On ne sait pas trop, en fait. On fait confiance aux autorités japonaises qui, depuis un an, essaient en permanence de s'adapter, de trouver des solutions. Les Jeux, c'est mieux qu'ils se tiennent parce que maintenant qu'ils ont tout construit, tout organisé, tout prévu, c'est sûr que si en plus ils doivent rembourser un certain nombre de frais engendrés, ça va leur coûter beaucoup d'argent. Il y a déjà eu un report, donc c'est vrai que je crois qu'il faut aussi par solidarité se dire que c'est bien que ces Jeux aient lieu.
Tony Estanguet avec Pierre de Villeneuve. Et puis noter la retraite à 27 ans d'Abby Niaré, vice-championne olympique de taekwondo à Rio, ancienne championne du monde et d'Europe. Elle a fait cette annonce hier. Son envie dévorante de vivre de nouveaux tournois s'est heurtée de plein fouet à l'usure de son corps, écrit-elle.
Effectivement, bah, y a des sports comme ça et des conditions physiques sur lesquelles on n'a parfois pas le choix et pas la possibilité de poursuivre. Merci beaucoup Axel May, on vous retrouve tout à l'heure. Place aux courses à présent avec le pari gagnant Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Théo, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat et mon pari gagnant sera le 903 Born to Be. Il reste sur trois bonnes performances dans cette catégorie des handicaps, dont la dernière obtenue sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, où il s'est classé quatrième face à une opposition d'un niveau plus relevé que celle de cet après-midi. Dès lors, il trouve ici une occasion idéale de renouer avec la victoire. Notez bien, pour Bordeaux Réunion 1, dans la 9e course, le numéro 3, Born to Be.
C'est bien noté, merci Thierry Léger. On vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
5h15, on ouvre dans un instant notre pressing, les histoires repérées pour vous dans la presse ce matin. Axel May, qu'est-ce qui vous a marqué ?
Eh bien, François Pinault, propriétaire du stade de Rennes et d'un grand cru bordelais qui appelle les propriétaires de grands crus de Gironde à sauver le club de football de la ville.
Des Girondins de Bordeaux lâchés cette semaine par leur investisseur, on en parle tout de suite sur Europe 1.
Vous informe sur Europe 1.
L'essentiel de l'actualité ce matin, plus de limites d'âge pour les tests antigéniques et les autotests. La Haute Autorité de Santé les autorise pour les moins de 15 ans. Rapides, moins invasifs, ils sont pertinents pour briser les chaînes de contamination, notamment en milieu scolaire, explique la HAS. Concernant les chiffres de l'épidémie en France, le nombre de malades du Covid-19 en réa est repassé au-dessus des 6000, un chiffre dont il était proche depuis une dizaine de jours, c'est ce qu'indique Santé publique France. Et puis la cybercriminalité se porte très bien. C'est le constat d'un rapport du Club des juristes qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité ce matin. Le coût de la cybercriminalité est estimé à 6 000 milliards de dollars en 2021. Il pourrait grimper à 10 000 milliards de dollars d'ici 4 ans.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour notre pressing du jour à 5h17 avec, pour commencer, la une de vos journaux et la tragédie indienne en première page du gratuit 20 minutes qui revient sur les causes de l'explosion spectaculaire de l'épidémie de Covid en Inde. Émergence d'un nouveau variant vétusté du système de santé et une situation résumée en photo par ce regard épuisé d'une femme sous oxygène. Le Figaro salue, lui, l'Europe qui passe enfin à l'action sur le plan de relance contre la crise liée à la pandémie. La mise en œuvre effective du plan de 750 milliards d'euros franchit une étape clé aujourd'hui à Bruxelles avec la remise par la France, l'Allemagne et l'Italie, les trois plus grosses économies de l'UE, de leur feuille de route pour pouvoir bénéficier de ces aides qui devraient arriver d'ici l'été. On en parle moins et pourtant elles arrivent. Les élections départementales sont à la une de la Provence. Et oui, dans un mois, les 20 et 27 juin, on votera pour les régionales, mais aussi pour renouveler les dirigeants de nos départements. Et c'est important car ils ont la main sur la voirie, les collèges ou encore les aides sociales. Rappel utile de tout ce qu'il faut savoir, c'est donc dans le quotidien provençal. Que pense vraiment le pape François sur la question de l'homosexualité ? Ça, c'est un passionnant dossier à découvrir dans La Croix, qui a enquêté sur la façon dont le souverain pontife travaille sur le sujet. C'est, vous le savez, très sensible pour l'Église catholique. « Qui suis-je pour juger ?» avait notamment dit le pape François il y a 8 ans. Pape François entre volonté d'ouverture mais refus de rompre avec les plus dogmatiques, c'est à retrouver dans La Croix. Enfin, vous nous en parliez il y a quelques secondes, Axel May. Le Parisien anticipe déjà sur le match au sommet demain soir entre le PSG et Manchester City en Ligue des Champions, avec une manchette qui résume bien ce face-à-face, le match des milliardaires entre fonds qataris et émiratis. Place à présent aux trois histoires qui attirent notre attention ce matin. Et donc Axel, François Pinault lance un appel au monde du vin pour un projet de reprise.
Oui, le richissime homme d'affaires a adressé une lettre ouverte à ses collègues propriétaires de grands crus bordelais qu'il a transmise au journal Sud-Ouest, mais aussi à l'équipe. 27e fortune mondiale, rappelle Sud-Ouest. Hein. François Pinault, 84 ans, est notamment propriétaire du Château Latour, premier grand cru classé de Pauillac en Gironde. Donc, depuis 1998, le fondateur du groupe de luxe Kering, ex-Pinault, un printemps en redoute, est également le grand patron du Stade Rennais, et qui est d'ailleurs le Stade Rennais, le prochain adversaire des Girondins dimanche en championnat.
En Ligue 1.
Bref, lâché jeudi dernier par leur propriétaire américain King Street, placé sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux, les Girondins sont un monument en péril. Et pour François Pinault, amoureux du vin et du football, écrit Sud-Ouest. L'heure doit être à la mobilisation.
Et alors, qu'est-ce qu'il écrit, François Pinault, dans cette
lettre ? Suspense. Je pense que l'existence du club mythique est importante pour Bordeaux, hein, ce club mythique, son rayonnement, quelle est la force économique qui, dans cette région, peut se donner l'objectif de sauvegarder les Girondins et de les développer. Le monde du vin, et en particulier les propriétaires de grands crus, écrit François Pinault. Alors, il explique aussi que son groupe étant l'actionnaire unique du Stade Rennais, il ne peut pas lui mettre la main à la poche, mais qu'il est prêt à apporter son soutien à toute opération montée par les acteurs du vin. Et dans le journal de 6 heures, vous entendrez la réponse d'un grand propriétaire de vin à cette invitation de François Pinault.
Quel suspense et quel teasing. Merci beaucoup Axel May. Je vous parle moi ce matin de cette enquête de Libération qui donne des détails assez effarants sur une affaire dont on vous avait parlé il y a quelques temps sur Europe 1, d'agents de la DGSE, le renseignement extérieur, arrêtés pour avoir planifié des assassinats ciblés qui n'avaient rien à voir avec des missions d'État. Eh bien, on apprend dans Libé aujourd'hui que ces ripoux, ces tueurs à gages, sont passés totalement à travers les procédures de contrôle qui aurait dû permettre à la DGSE de les repérer et de les faire arrêter. Pierre B et Karl E sont affectés depuis plusieurs années au centre parachutiste de Sercotte dans le Loiret. Ils se rêvent espions, agents d'élite, mais en réalité, ils les côtoient seulement, ces héros. Eux sont des plantons, des gardes-barrières qui assurent le contrôle des entrées sur le site. Pourtant, quand ils sont arrêtés au volant d'une voiture il y a quelques mois, alors qu'ils s'apprêtent à aller abattre une femme, ils assurent agir dans le cadre d'une mission venant du plus haut sommet de l'État. Évidemment, il n'en est rien. Et Libération révèle comment ces deux petites frappes ont fini par monter de toutes pièces des opérations de tueurs à gages pour se mettre dans la peau des héros qu'ils ne sont pas et surtout sans jamais s'en cacher. Ils en parlaient ouvertement dans leur caserne, recrutaient même des camarades de chambrée. Comment, dans ce cas-là, la hiérarchie de la DGSE a pu ignorer à ce point des dérives clairement assumées sous son toit ? On comprend, en lisant Libération, que le suivi de ces agents ne se fait plus qu'en pointillés, et cela même quand leurs notes d'évaluation dégringolent au fil des années. Faillite managériale, dénoncent les avocats de ces wannabe espions. Faillite qui a donc coûté la vie à au moins un homme, un pilote de rallye corse qui a été assassiné par l'un de ses commandos. Une dizaine d'autres affaires sont en cours d'examen et au moins 4 militaires de la base de Sercotte sont aujourd'hui inculpés. Ça fait quand même un tout petit peu frissonner Charlotte Barrican. On termine avec vous.
Eh bien, prenez un instant pour vous mettre en situation. On va se replonger dans les années 90. C'était la mode du 100% dénime. On dansait sur des tubes phares comme Wannabe des Spice Girls. Et il y avait un autre phénomène qui a vu le jour au même moment, le Tamagotchi. Il avait fait fureur à l'époque, souvenez-vous, pour disparaître ensuite. Mais il s'apprête à faire son grand retour. C'est ce que nous annonce en tout cas le site Slate. Vous savez, le Tamagotchi, c'est ce petit jouet électronique en forme d'œuf venu tout droit du Japon avec un animal à l'intérieur. Il se mettait à crier dès qu'il était contrarié, qu'il avait faim ou soif. Il mourrait au bout de quelques jours si on l'oubliait, une vraie plaie pour les parents qui finissaient toujours par devoir s'en occuper.
Animal virtuel, je précise pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu le Tamagotchi dans leur cours de récré. À quoi il va ressembler, Charlotte Barrican, ce nouveau Tamagotchi ?
Eh bien, la forme ne va pas changer, ça reste un œuf, mais la révolution, c'est qu'il sera équipé d'un appareil photo, ce qui lui vaut le nom de Pix, en rapport à picture, pour image en anglais. Il y a de nouvelles fonctionnalités, on peut cuisiner, peindre avec son animal et même se connecter avec d'autres utilisateurs. Bandai America, la société mère du Tamagotchi, annonce un déploiement de Pix en Amérique du Nord sur les deux prochaines années. Le prix en précommande, $59.99, soit environ 49 €. Mm-hmm. En revanche, on ne sait pas encore quand il arrivera en Europe. Quand on y pense, au total, ce sont 82 millions de Tamagotchi vendus dans le monde depuis sa création en 1997.
82 millions.
Mais on le sait, la mode est un éternel recommencement. Alors Théo, c'est peut-être le moment de vous laisser tenter et de retourner un peu en enfance.
Vous aviez un Tamagotchi, Charlotte ?
Bien sûr.
Bien sûr,
plusieurs.
Évidemment. Plusieurs même. Eh ben, vous pouvez relancer votre collection avec donc ce Pix qui arrive en Europe. On ne sait pas encore quand, mais sans doute qu'il fera des adeptes. Merci beaucoup Charlotte, Axel, pour ce pressing. Je vous dis à tout à l'heure.
Europe 1. Théo Manval.
5h24, nous sommes dans l'Oise ce matin pour les doigts dans l'assiette à Roy-Boissy sur les terres de notre éleveur polyculteur. Bonjour Luc Smessert.
Bonjour Théo.
Comment ça va ce matin ?
Bah très bien, il fait frais, il y a 2 degrés, mais ça va aller.
Est-ce que vous aussi, comme Alex Tora hier à Prades, vous attendez la pluie avec impatience ? Vous n'en avez pas eu hier, j'imagine ?
Non, pas du tout.
On n'attend pas encore aujourd'hui.
20 jours de gel sur le mois d'avril et pas une goutte d'eau.
Ouais. À quoi ressemblent vos cultures alors ? Vos 9 cultures, blé, betterave, lin, colza, ils ont soif ?
Ils attendent l'eau, ils attendent vraiment aussi la chaleur. On a aujourd'hui des blés qui sont plutôt en retard. des colzas qui ont du mal à fleurir, des betteraves qui n'ont pas beaucoup bougé, et puis surtout de l'herbe qui ne pousse pas et nos animaux commencent à avoir faim. Mmh.
Vous avez commencé quand même à ramasser un petit peu le raie grasse, je crois, expliquez-nous.
Oui, alors c'est la première récolte de l'année. On fait sur une toute petite partie, hein, c'est 6 hectares de la ferme, 2 récoltes en un an. L'année dernière, après avoir récolté le blé, on a semé du raie gras, alors c'est de l'herbe. Hein.
D'accord, oui, il faut expliquer à nos auditeurs ce que c'est. Le raie gras, d'ailleurs, j'ai dit raie grasse, c'est raie gras.
Oui, c'est un anglais. Donc, l'avantage, c'était une plante qui pousse assez rapidement. Elle pousse tout l'hiver. Elle fait un couvert végétal en même temps. Ça évite justement que l'azote descende. Ça valorise très, très bien les apports de fumier.
Voilà, ça aide l'engrais, en fait, à avoir son effet.
Voilà, et puis avec cette plante... là, on a récolté donc 68 ballots, donc ce qui fait à peu près 6 tonnes hectares, donc c'est pas mal.
Et ça servira de fourrage après pour vos vaches laitières et...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va donner ça à nos vaches laitières. On va donner à peu près 300 kilos par jour. Ça va permettre de remplacer du soja OGM, brésilien ou autre.
D'accord.
Et l'intérêt, c'est que ça diversifie la ration. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir déjà récolté. Donc, si vraiment on a une vraie sécheresse, qu'on espère surtout pas, on a déjà un petit peu de stock.
Oui, ça, ce serait vraiment la triple peine après le gel. Et donc, cette récolte-là, elle n'a pas souffert du gel et du manque d'eau pour l'instant?
Alors, on a manqué un tout petit peu en quantité. Par contre, en qualité, c'est bien. Donc, c'est une bonne chose. On l'a enrubanné, c'est-à-dire que chaque ballot a été entouré d'un plastique qui va permettre de le conserver. On va utiliser un ballot pour 2 jours, donc c'est plutôt intéressant. Et maintenant, derrière, on ressème du maïs.
D'accord.
Et en espérant, on a mis entre deux, on a mis du lisier de bovin pour tout ça, pour ça évite d'acheter de l'azote.
Bien sûr.
Et puis c'est finalement un cercle complètement vertueux, fermé. Maintenant, il nous faut de l'eau pour que notre maïs pousse.
Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. On demandera tout à l'heure à Laurent Cabrol quand est-ce que l'Oise va enfin voir arriver la pluie. On lui posera la question. Merci beaucoup, Luc Smessert, éleveur polyculteur à Roy-Boissy dans l'Oise. À très bientôt dans Les Doigts dans l'Assiette. You got high, you're still high. Spinning out of orbit in the pale moonlight. Your eyes are burning like a neon light. You're so high, you're still high. I'm gonna take my time on this road. I've gotta find a c'était le groupe Texas sur Europe 1. Laurent Cabrol, un point sur le temps de ce mardi et on en parlait à l'instant avec Luc Smessert, ce sera finalement pas si arrosé. Hein.
Bah oui, il fera beau sur les... Oh, on va dire sur une grande moitié nord de la France. Allez, un grand beau temps avec peu de vent sur le littoral de la Manche, donc toutes les régions qui bordent la Manche, sur la Champagne-Ardenne, la région parisienne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, le centre, dans toutes ces contrées. Ce sera du grand beau temps, un temps presque estival, hein, franchement très agréable. Des éclaircies sur la région lyonnaise, l'impression de beau temps prévaudra, comme sur la vallée de la Loire, comme sur la Franche-Comté. Et puis des régions où en principe il devrait pleuvoir, et là on peut espérer la pluie. Il y en a eu un petit peu hier, il y en aura encore un petit peu aujourd'hui, sur le Midi-Pyrénées, le Béarn, l'Aquitaine, le Massif Central, les Alpes et le bassin méditerranéen, surtout le Languedoc-Roussillon. Alors sur la Côte d'Azur et la Corse, ce seront peut-être des orages. Voilà, vous voyez qu'il y, a, il y aura des pluies, mais enfin, on est vraiment dans l'incertitude la plus totale. Température maximale entre 14 et 22 degrés aujourd'hui, 14 à Cherbourg, 22 à Blois, en passant par 18 à Marseille et 21 à Paris et à Lyon.
Merci beaucoup Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Un nouveau journal sur Europe 1 tout de suite. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 5h30.
En famille, chez soi, on reçoit des amis qui sont vaccinés, vous êtes vaccinés. On n'a pas forcément besoin d'avoir le masque, etc.
Deux doses pour un semblant de vie normale. Le Haut Conseil de la Santé publique veut permettre aux personnes vaccinées de pouvoir tomber le masque, mais sous certaines conditions. Le détail dès le début de ce journal. À suivre aussi, des capteurs de CO2 massivement déployés dans les écoles de Lille. Parade anti-Covid pour favoriser l'aération des pièces. La téléconsultation en question après une erreur de diagnostic fatale à un patient. Et le club de foot de Bordeaux peut être sauvé par le monde du vin.
Dans 10 minutes, l'accord commercial sur le Brexit enfin définitivement voté au Parlement européen aujourd'hui, 4 mois après son entrée en vigueur provisoire. Ça témoigne d'un climat toujours tendu, nous dira l'économiste Christian Saint-Etienne. Il vient faire un premier bilan. Très bon réveil, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une mesure que certains sont allés réclamer en justice. Un allègement des gestes barrières pour les personnes vaccinées. Une requête sur laquelle s'est penché le Haut Conseil de la Santé publique.
Avec à la clé Victor Dolande, une proposition prudente concernant le port du masque.
Oui, il recommande par exemple l'abandon du masque en milieu fermé dans le cadre privé, familial ou amical. Mais attention, sous certaines conditions. D'abord, cet avis ne vaut que pour les personnes qui ont reçu les deux doses du vaccin. Et on pourra oublier le masque que si toutes les personnes dans la pièce sont elles aussi vaccinées. Une recommandation logique pour le professeur Daniel Floret, vice-président de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé.
Heureusement que la vaccination va nous permettre de donner un peu de mou. En famille, chez soi, on reçoit des amis qui sont vaccinés, vous êtes vaccinés. On n'a pas forcément besoin d'avoir le masque, etc. Mais il est trop tôt au jour d'aujourd'hui pour dire que, étant vacciné, tout redevient comme avant, c'est pas vrai.
Trop tôt car il y a encore des incertitudes sur plusieurs points, l'efficacité des vaccins, notamment sur les variants, sur la durée de protection du vaccin et sur la transmission. Autrement dit, peut-on encore transmettre le virus à quelqu'un alors qu'on est déjà vacciné ? En attendant plus de données, le Haut Conseil pour la Santé publique recommande donc aux personnes vaccinées de continuer à faire bien attention et de ne pas totalement abandonner les gestes barrières.
Et cette question des gestes barrières pour les personnes vaccinées, elle a également été évoquée hier soir en Allemagne, réunion entre Angela Merkel et les présidents des Länder. La chancelière annonce la publication prochaine d'un décret pour permettre notamment aux personnes immunisées d'être exemptées de quarantaine après un contact avec une personne infectée.
Toujours volet sanitaire, au lendemain de la rentrée scolaire, la Haute Autorité de Santé ouvre la voie à une densification de la campagne de tests.
Oui, elle autorise l'utilisation des tests antigéniques et des autotests dès la maternelle, donc pour les enfants à partir de 3 ans. Ils étaient jusque-là réservés aux plus de 15 ans. Les écoles qui, pour éviter les contaminations, misent aussi sur les capteurs de CO2. Ces appareils permettent de signaler quand il faut aérer une pièce. Et dans les établissements, il y a un endroit particulièrement sensible. C'est la cantine où les enfants évoluent par définition sans masque. À Lille, donc, tous les espaces de restauration scolaire ont été équipés de capteurs, un gage de sécurité pour les élèves comme pour les personnels. Reportage de Lionel Gougelot pour Europe 1.
Un petit boîtier accroché au mur de la cantine mesure en continu le taux de CO2 dans l'atmosphère.
Alors ce sont des capteurs mobiles, la ville de Lille en a aujourd'hui 24.
Et sur ce capteur, une diode verte qui indique, explique Charlotte Brun, l'adjointe chargée des écoles, un faible taux de concentration de CO2.
Et c'est un outil qui permet sur le moment d'être efficace, puisqu'il parle la couleur qu'il renvoie, il vous donne un signal. Dès que ça passe, non pas au rouge mais au orange, on commence à s'inquiéter. On renforce l'aération entre deux repas ou attendre avant qu'un deuxième groupe groupes d'enfants arrivent dans le restaurant scolaire, que ce soit suffisamment bien aéré.
À Lille, ces capteurs sont installés dans les restaurants scolaires, des lieux plus sensibles que les classes où les élèves restent masqués.
Dans un restaurant scolaire, c'est encore plus important car les enfants, pour manger, ils enlèvent le masque. Donc, il faut que le bâtiment soit très bien aéré et qu'il y ait une très faible concentration de CO2 dans l'air intérieur.
Un système qui rassure les personnels encadrants, surtout ici dans cette école où l'aération se déclenche automatiquement.
Dès qu'il y a trop de CO2, ça s'ouvre automatiquement. Dans le restaurant, les fenêtres s'ouvrent automatiquement pour l'aération. C'est plus simple pour nous, c'est plus sécurisant.
Dispositif complémentaire des tests salivaires qui seront ici aussi progressivement déployés dans les écoles. Lille, Lionel Gougelot.
Ces personnels-là s'inquiètent et le principal syndicat des pilotes de ligne d'Air France appelle au droit de retrait. Celles et ceux effectuant des liaisons vers l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Argentine ou le Chili, car des vols de marchandises sont maintenus vers ces destinations, interdites aux passagers à cause des variants qui y sévissent. Le SNPL demande au gouvernement d'inclure le personnel navigant parmi les publics prioritaires de la vaccination.
5h35 sur Europe 1. C'est une pratique qui s'est considérablement répandue avec la pandémie, la consultation d'un médecin à distance. Pratique aujourd'hui en question après la mort d'un patient à Grenoble.
Oui, c'était lors du premier confinement. Sa famille a porté plainte. Les précisions du correspondant d'Europe 1 en Rhône-Alpes, Jean-Luc Boujon.
C'était il y a un an pile. Jean-Christophe, 40 ans, est atteint d'étranges symptômes, une langue blanche et pâteuse, ainsi qu'une envie de boire permanente. Il appelle donc un cabinet médical grenoblois qui, vu le contexte sanitaire, l'incite à une consultation à distance via son ordinateur. Une fois connecté avec un médecin, il détaille donc ses symptômes, sans oublier de préciser qu'il souffre d'obésité, qu'il est en rémission d'un cancer. Face à lui, une praticienne qui semble avoir une idée fixe, raconte Maître Hervé Gerby, l'avocat de la famille.
Le praticien, qui a surtout orienté son interrogatoire pour éliminer une infection Covid-19, va faire un diagnostic de mycose buccale. Donc, la décompensation diabétique n'a absolument pas été évoquée par le médecin. Elle passe totalement à côté.
Diagnostic erroné donc, et un patient qui décède une semaine plus tard. Pour Maître Hervé Gerby, c'est la pratique de la téléconsultation qui est aujourd'hui en cause.
L'examen clinique derrière un écran n'est pas le même que l'examen clinique en direct, avec un risque majeur, c'est de faire peser une sorte de co-responsabilité dans le diagnostic entre le médecin et le patient. C'est-à-dire qu'on pourrait à terme reprocher au patient de ne pas avoir donné toutes les informations nécessaires au médecin pour faire son diagnostic.
Le débat est donc lancé. Parallèlement, une plainte a été déposée contre ce médecin. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
C'est une alerte formulée aujourd'hui dans la revue médicale The Lancet. La fausse couche est aujourd'hui encore un phénomène trop souvent minimisé. Selon ce rapport, près de 11% des femmes ont fait une fausse couche et le phénomène devrait être mieux pris en charge avec un suivi psychologique de ces femmes qui aujourd'hui regrettent que le seul conseil qu'on leur donne est de réessayer.
Le rendez-vous est donné samedi, nous serons le 1er mai et pour l'occasion les fleuristes auront bien le droit de rouvrir. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement, annonce que nous détaille Maud Descamps pour Europe 1.
Pour s'offrir quelques clochettes blanches pour le 1er mai cette année, il suffira de franchir les portes de son fleuriste ou de son supermarché. Exit donc le click and collect mis en place l'an dernier qui avait obligé les commerçants à vendre le muguet sur le pas de leur porte. Une bonne nouvelle donc pour les professionnels du secteur pour qui le 1er mai est le quatrième jour de vente le plus important de l'année. Mais le brin porte-bonheur sera également vendu à la sauvette uniquement par les associations et les particuliers dans une limite de 10 km autour de leur domicile. Florent Moreau, président de la Fédération des fleuristes, ne comprend pas que la vente à la sauvette soit autorisée cette année.
Depuis un an, on impose aux entreprises des mesures drastiques de protection de la population, avec notamment des jauges à respecter, l'obligation de mettre à disposition du gel hydroalcoolique. Autoriser désormais des non-professionnels à vendre du muguet sur la voie publique, ça semble être complètement insensé. La France est encore sous confinement jusqu'au 3 mai prochain. Je ne comprends pas cette disposition.
Comme les commerces, les vendeurs à la sauvette devront respecter les gestes barrières et notamment éviter tout rassemblement de plus de 6 personnes devant leur stand.
Précision signée Maud Descamps. On en parlait il y a quelques minutes. L'appel de François Pinault, propriétaire du Château Latour, pour que les propriétaires de vins dans la région de Bordeaux sauvent le club des Girondins. Eh bien, l'un de ses amis, notamment Bernard Magret, pape du Bordelais, est séduit par l'idée. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 6h.
Affaire à suivre en effet. Enfin, avant le PSG contre Manchester City demain, première demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir.
Oui, et ce sera le Real Madrid contre Chelsea. Un affrontement dans un contexte très particulier entre les deux clubs, comme nous l'explique le correspondant d'Europe 1 en Espagne, Henri de Laguérie.
C'est un sujet qui l'agace, il refuse de dire ce qu'il en pense, mais Zinedine Zidane est persuadé que le fiasco de la Super League, un projet porté par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, n'aura pas de conséquences sur ce match face à Chelsea. Son équipe ne fera pas les frais d'un arbitrage plus sévère comme le craint pourtant la presse espagnole.
L'arbitre va faire son job et nous on va faire notre job sur le terrain. C'est tout ce qui nous importe. Le reste, en fait, on va jamais contrôler. C'est pour ça qu'en fait, ça ne sert à rien qu'on donne de toute façon mon avis. Comme chacun parle, chacun donne son avis, ça ne va rien changer du tout. Ce qui changera, c'est ce qu'on va faire nous sur le terrain. Le plus important, c'est de se concentrer sur notre travail qu'on a à faire. Le reste, ça ne nous intéresse pas.
Le Français évite le sujet, mais cette Super League a été soutenue par une partie des supporters et de la presse en Espagne. À Madrid, on attribue son échec aux Anglais qui ont fait marche arrière en 48 heures. Certains ici l'ont encore en travers de la gorge. Ils n'hésitent pas à parler d'une trahison britannique. Ce duel face à Chelsea aura donc ce soir une saveur particulière. Madrid, Henri de la Guérie. Europe, hein.
Voilà, et ce Chelsea-Real Madrid qui précédera donc une PSG-Manchester City que l'on suivra demain sur Europe 1.
Le derby du golf, comme nous le disait tout à l'heure Axel May, merci, c'était le journal de Marion Calais. Il est 5h40. Et place aux courses avec Thierry Léger, quels sont vos pronostics ?
Direction l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat pour ce quintet, un handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 4 à 9 ans. Et j'ai choisi comme favori le numéro 5, Bayoun, l'un des plus âgés mais aussi le plus expérimenté et assurément le plus régulier. 24 courses depuis le début de sa carrière, 13 victoires et 8 fois dans les 5 premiers. Sa place est donc à coup sûr à l'arrivée de ce quintet. On lui opposera les numéros 2, Houton, 13, Ultramarine et 7, Sauzon. Tous les trois, à peine âgés de 4 ans, et qui auront pour eux bien évidemment leur jeunesse, associée à leur qualité intrinsèque, ce qui me laisse à penser qu'ils ont d'ores et déjà les moyens de se distinguer dans cette catégorie des quintés. Enfin, les numéros 12, Acier, 3, Gris d'Argent, 16, Ascot Angel et 15, El Caliente, ont eux aussi quelques arguments à faire valoir pour postuler aux premières places. Mon pronostic, 5, 2, 13, 7, 12, 3, 16 et 15.
C'est noté, merci Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Et j'accueille à présent le premier invité de ce 5-7. Bonjour Christian Saint-Étienne.
Bonjour.
Économiste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Je le disais, le Parlement européen vote définitivement aujourd'hui l'accord de divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ça y est, c'est la page finale du Brexit qui se tourne, même si cet accord est entré en application provisoire déjà depuis le 1er janvier.
Non, ce n'est pas la phase finale. C'est un moment très important. C'est le moment qui termine la phase de négociation. Maintenant, c'est la mise en œuvre et puis il y a encore beaucoup de points qui ne sont pas résolus. Mais c'est un moment malgré tout historique parce que ça confirme la sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne.
C'est un divorce dans la douleur hein, parce que ce texte de 1246 pages, il a été bouclé par les deux parties fin 2020. Il était prêt à être signé, mais les eurodéputés ont volontairement retardé jusqu'au bout cette signature en signe de protestation.
Exactement. Donc... Il a fallu attendre les votes des commissions du commerce international et des affaires étrangères le 15 avril 2021 pour que soit ouverte la possibilité de présenter ce texte devant le Parlement européen au complet. Et effectivement, le Parlement a voulu rappeler que depuis le traité de Maastricht et surtout le traité de Lisbonne, le Parlement est en co-décision avec le Conseil européen. Donc c'était un coup de menton parce qu'en réalité, la marge de manœuvre du Parlement était limitée. Mais comme vous l'avez dit, ils ont voulu montrer qu'ils étaient là en faisant traîner.
Vous le disiez, il y a encore plusieurs aspects qui posent problème dans ces relations futures entre l'UE et le Royaume-Uni. La question de la frontière terrestre en Irlande du Nord et de la pêche ont été les deux gros sujets qui ont longtemps retardé les négociations et qui, 4 mois après l'entrée en vigueur provisoire, posent toujours problème.
Alors vous avez raison, ce sont les deux sujets qui ont été les plus médiatisés, il y en a d'autres. Mais la question de la frontière entre les deux Irlandes est très importante. puisque...
Elle a suscité des heurts répétés hein, au début du mois, on l'a vu.
Exactement, parce que en fait, derrière la question de la frontière, il y a la réunification ou pas de l'Irlande. Pour éviter qu'il y ait une frontière entre le sud et le nord de l'Irlande, on a mis la frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni, et c'est ça qui provoque l'ire des Irlandais du Nord, des protestants qui voudraient rester dans le Royaume-Uni et qui ont un sentiment d'abandon. En fait, à mon avis...
Et puis sur la pêche, il y a eu ces manifestations de pêcheurs français la semaine dernière pour empêcher la pêche britannique d'arriver en France, à Boulogne-sur-Mer, en représailles au fait que très peu de bateaux français ont obtenu leur permis d'aller pêcher comme ils devraient pouvoir le faire dans les eaux britanniques depuis le 1er janvier.
Oui, vous avez raison. Alors, ils doivent donner ces autorisations, ils font traîner, elles auraient dû être données au moins au début février. À fin avril, elles ne sont pas là. Alors, la pêche et l'Irlande du Nord, ce sont des sujets clés. Il y a un autre sujet très important, c'est qu'en fait, le traité que signe le Parlement aujourd'hui, c'est en fait un traité qui porte essentiellement sur les échanges de biens et les services ont été laissés largement à l'écart, ce qui peine évidemment...
L'aspect financier.
La place de Londres, qui espérait pouvoir continuer d'œuvrer sans difficulté dans l'Union européenne, mais qui est tenue pour l'instant un peu en lisière. D'abord, ça envoie un signal très clair aux Britanniques que la stratégie fondamentale que souhaitait suivre le Premier ministre britannique, qui était de transformer la place de Londres en Hong Kong de l'Europe, c'est-à-dire une zone financière qui serait, quoi qu'il arrive, toujours moins taxée et toujours moins réglementée que le reste de l'Europe pour attirer les transactions sur la place de Londres. Eh bien, cette stratégie, pour l'instant, tant que l'Union européenne ne donne pas son accord sur la possibilité des financiers britanniques d'œuvrer librement avec les agents économiques de l'Union
européenne. D'avoir la libre circulation de services, oui.
Voilà. Eh bien, ça bloque cette volonté assez perverse de Boris Johnson. Voilà.
Avant de revenir sur ce sujet, vous parliez tout à l'heure du fait que Londres traîne clairement à mettre en œuvre certaines dispositions de l'accord. Est-ce que finalement, ça donne le ton de ce que sera la future relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour les années à venir, une relation tendue ?
Je pense que ça va être une relation tendue aussi longtemps que Boris Johnson est là.
C'est une question de leader, donc.
Oui, en grande partie parce que il a construit une grande partie de sa politique vis-à-vis de l'Union européenne sur l'antagonisme. Alors, il y a quand même eu un changement majeur sur le plan politique, puisque il y a un nouveau patron du Labour qui rencontre pas mal l'adhésion du peuple britannique. Et s'il devait y avoir une alternance en faveur du Labour qui est beaucoup plus favorable à des relations apaisées avec l'Union européenne et surtout ne souhaite absolument pas de guerre fiscale et sociale avec l'Union européenne, on pourrait avoir une relation apaisée. Chaque fois que vous aurez un Premier ministre qui veut régler des comptes ou qui veut se rendre populaire, il fera comme Johnson et il cognera sur l'Union européenne. Donc, le plus probable, c'est que dans les décennies qui viennent, on aura des hauts et des bas dans cette relation.
Vous parliez tout à l'heure des garanties que l'Union européenne a pour l'instant obtenues sur les services, l'aspect financier. Elle s'inquiétait aussi beaucoup de la possibilité de dumping sur les biens, de concurrence déloyale du Royaume-Uni sur les normes de nombreux produits qui seraient moins contraignantes. Là, finalement, elle a obtenu aussi des garanties. Finalement, c'est un accord gagnant pour l'Europe qui va être entériné tout à l'heure.
Moi, je dirais que c'est un accord perdant pour le Royaume-Uni qui perd en influence parce que le paradoxe absolu du Brexit, c'est quand même assez extraordinaire sur le plan de la pure analyse politique, c'est que c'était le Royaume-Uni
qui dirigeait l'Europe. C'était rendre sa liberté et sa prospérité au Royaume-Uni. C'était les mots employés par les Brexiteurs.
Oui, mais ça a été fait au nom de Bruxelles qui gouvernerait le Royaume-Uni, alors qu'en réalité, c'était le Royaume-Uni qui gouvernait Bruxelles. Donc c'est un pays avec lequel on va continuer d'avoir des relations très fortes. Le président de la République française devrait prendre son avion, aller voir les Anglais et nouer un accord d'État à État entre la France et le Royaume-Uni, qui respecte tout à fait les règles d'échange au sein du marché unique, mais sur les questions de science, d'innovation dans les biotechnologies, sur les questions militaires, sur les questions diplomatiques internationales. ce qui permettrait aux deux pays qui gardent des capacités militaires et diplomatiques en Europe d'œuvrer ensemble. Et le seul pays avec lequel nous avons en Europe un gros excédent, c'est le Royaume-Uni. Donc il ne faut pas que nous perdions cet excédent. Donc il faut que nous gardions
des échanges bilatéraux, donc peut-être, mais là aussi ça dépendra certainement des rapports entre dirigeants que vous évoquiez tout à l'heure, des rapports entre personnes finalement. Merci beaucoup Christian Saint-Étienne, économiste, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, d'être venu passer en revue avec nous cet accord définitif sur le Brexit qui sera signé pour de bon donc tout à l'heure par les eurodéputés au Parlement de Strasbourg. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous, merci.
Europe 1.
5h49, l'heure de mettre en lumière à présent celles et ceux qui font bouger la France avec vous. Axel May, où est-ce qu'on va ce matin ?
Eh bien, on ira à Marseille où une web série solidaire a été tournée et elle donne la parole à ceux qui font la nuit, ou plutôt faisaient la nuit, et qui depuis un an sont privés de leur métier.
Les Français ont des idées, on vous le montre dans une minute, à tout de suite.
Vous informe sur Europe 1.
À l'essentiel à 6h10, les tests antigéniques et autotests autorisés désormais pour les moins de 15 ans. La Haute Autorité de Santé a donné son accord hier soir. Ils pourront être utilisés dès la maternelle sous la supervision d'un adulte. Un millier de personnes réunies hier à Rambouillet pour un hommage à la fonctionnaire de police tuée vendredi dans le commissariat de la ville. Nous ne fléchirons pas devant une telle abomination, a notamment déclaré la maire de Rambouillet. La nouvelle charge fiscale de Joe Biden, après avoir annoncé son intention d'augmenter l'impôt sur les sociétés. Le nouveau président américain annonce une hausse des impôts pour les plus riches, plus 0,3% pour celles et ceux qui gagnent plus d'un million de dollars.
Écoutez le monde changer avec Théo Manval sur Europe 1.
La France bouge, les Français ont des idées. On vous le montre tous les jours sur Europe 1. Et Axel May, ce matin, vous nous en emmenez à Marseille où un réalisateur a décidé de tourner une série de mini-documentaires pour redonner de la voix aux femmes et aux hommes qui font la nuit dans la cité phocéenne.
Oui, ce monde de la nuit qui ne vit plus depuis un an. Nicolas Debru dirige l'association LASCO, spécialisée dans les nouvelles écritures numériques, c'est ainsi qu'elle se définit. Et le réalisateur a enregistré 20 témoignages de Marseillais qui vivaient à la tombée du jour, comédien, cuisinier, photographe de concert, supporter de l'OM et bien sûr patron de boîte de nuit, à l'image d'Anthony Papalardo, directeur associé de l'emblématique Trolleybus.
Ça fait maintenant un an qu'on est fermé et mes nuits sont vides. Je sens comme enlever une partie de ma vie. Mon équipe qui est constituée de 43 personnes et moi-même sommes désespérés. C'est très compliqué à vivre. Moi, ça me manque. Ce contact avec les gens, ça me prend dans les tripes et ça me manque. Ma vie me manque et ça, on me l'a enlevé. Et c'est ça le plus dur. Et cette nuit, je la vois belle comme avant. Cette nuit, je la vois de la même couleur que celle que vous avez au-dessus de nous, dans mon dos, là. Je la vois noire, je la vois profonde, productive. Et je la vois faire redémarrer mon bébé qui est le trolley.
Voilà, les témoignages courts à moins de 3 minutes évoquent la nuit d'avant et évoquent aussi la nuit d'après de manière positive.
Et alors comment on fait pour voir cette web-série solidaire, Axel ?
Eh bien, depuis le 19 avril, chaque soir à 20h, un épisode est mis en ligne sur YouTube. YouTube jusqu'au 8 mai. Je peux vous donner aussi le site, hein, www.sanslanuit.fr. Je crois que c'est Richard Boringer qui disait « C'est beau, une ville la nuit ».
Merci beaucoup, Axel. Et vous partagez avec nous vos vidéos aussi, vos bonnes idées, vos initiatives. Vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Et la France bouge aussi sur le web. Charlotte Barrican, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux ?
Eh bien, depuis quelques temps, on entend beaucoup parler de la montée en puissance des insultes et des messages de haine sur les réseaux sociaux, notamment dans le monde du sport. Oui. La fermeture des stades à cause de la crise du Covid-19 a précipité les supporters sur Internet. On le voit, hein, ces derniers mois, les réseaux sociaux sont devenus un véritable défouloir.
Effectivement.
Supporters en colère, injures, voire pire. C'est le cas du footballeur nantais Imran Louza qui a reçu le 4 avril dernier des menaces de mort après une défaite face à Nice. Vincent Labrune, le nouveau président de la Ligue de football professionnel, dénonce dans un communiqué le climat de haine qui règne actuellement dans l'univers du foot. Il a demandé alors à Facebook et Twitter de traquer les comptes attisant la haine, les censurer et si cela ne suffit pas, engager des poursuites judiciaires. Dans le monde du sport, la parole a encore beaucoup de mal à se libérer, mais la Ligue a bon espoir. Cet exemple doit avoir un effet boule de neige.
Il y a aussi Instagram, Charlotte, qui commence à prendre place dans cette lutte contre le harcèlement en ligne.
Effectivement, hein, depuis quelques jours, il est possible aux utilisateurs d'Instagram d'Instagram de filtrer les messages reçus pour expurger les insultes et les messages de haine en les envoyant automatiquement dans une autre boîte de réception. C'est une conséquence directe de ce qui se passe dans le monde du foot. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans 7 pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada ou encore l'Australie. Pour le moment, quelques dizaines d'expressions ont été bloquées, mais très vite, l'application va permettre à chacun d'ajouter ses propres termes. Ce combat est capital. Le rôle de Twitter, Facebook et Instagram est de sensibiliser les plus jeunes qui font leurs premiers pas sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Charlotte Barrican. À 14h, votre rendez-vous comme tous les jours avec On de la Traconte. Aujourd'hui, l'incendie du bazar de la charité. Christophe va vous raconter l'histoire vraie de la série portée à l'écran sur TF1. En mai 1897 à Paris, le bâtiment éphémère en bois où était organisée une fête de charité prend feu. 130 personnes, dont la plupart des femmes issues de l'aristocratie, meurent brûlées. Christophe Ondelat recevra pour en parler Bruno Fulgini, historien, auteur de l'incendie du bazar de la charité aux éditions de l'Archipel. Le récit dans On de la Traconte à 14h et c'est à télécharger dès maintenant sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
6h moins 5 sur Europe 1, il est l'heure de s'intéresser à notre planète à présent. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez d'un nouveau genre de papier qui permet de ne plus utiliser les arbres, mais de la pierre.
Imaginez écrire sur un papier minéral. Le papier de pierre est une invention taïwanaise à la base qui a fait son chemin dans le monde avant de rejoindre la France en 2017. Il est fait de pierres recyclées broyées et de polyéthylène. Il a la particularité d'être imperméable et contrairement au papier classique que nous connaissons tous, il est difficilement déchirable. Sa composition et sa texture ne lui permettent pas toutefois de remplacer le papier de bois dans tous ses usages, mais il pourrait néanmoins drastiquement diminuer la consommation de papier et de plastique dans les domaines tels que les étiquettes, les emballages alimentaires, les menus de restaurants ou même les affiches extérieures, objets qui sont tous exposés aux intempéries et aux salissures.
Et alors ce papier minéral est en fait fabriqué avec des sous-produits qui sont d'habitude considérés comme des déchets.
Comme les gravats de chantier par exemple, le BTP peut être une source d'approvisionnement très importante. Ce papier, qui allie le minéral et le polyéthylène, est en plus recyclable pendant presque 100 ans. Un taux de recyclage d'autant plus intéressant que sa fabrication est moins consommatrice de ressources. Tenez, par exemple, pour une tonne de papier de pierre, il ne faut que 800 kg de pierre broyée et seulement 200 de plastique contre, tenez-vous bien, 2 tonnes de bois et plus de 60 000 litres d'eau. On évite non seulement une énorme consommation en eau, mais aussi l'utilisation de blanchissants polluants, car la poudre de calcium qui compose la poudre de pierre est déjà très blanche. La cerise sur le gâteau, c'est que la production de papier de pierre émet jusqu'à 75% de CO2 en moins que son équivalent fait avec le bois.
C'est une solution ingénieuse, typiquement une solution complètement en phase avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire.
C'est ça, une économie dans laquelle les déchets n'existent plus car ils sont sans cesse réemployés. Deux paramètres toutefois sont à ajuster pour que l'utilisation du papier de pierre se généralise et soit complètement écologique. Sa fabrication doit être dans un premier temps localisée en profitant des ressources en minéraux simples du continent européen car pour l'instant, le papier de pierre est importé d'Asie. Et aussi, une vraie filière de recyclage du papier de pierre doit voir le jour pour permettre de pleinement mettre à profit son potentiel d'économie circulaire. Alors en attendant, lorsque vous en aurez entre les mains, essayez de le déchirer ou de l'imbiber d'eau ou de le couper. Cette matière est absolument bluffante et donne envie d'abandonner le papier issu de l'abattage des arbres.
Incroyable, papier de pierre. Merci beaucoup pour cette découverte, Fanny Agostini. À demain.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bienvenue à tous sur Europe 1. Si vous nous rejoignez au réveil, il est presque 6h en ce mardi 27 avril.
Les réseaux mafieux se mettent en contact avec des informaticiens, en particulier de l'ancien bloc soviétique, où il y a des compétences en mathématiques, en informatique. Il faut renforcer très rapidement les effectifs, renforcer aussi une politique pénale. Véritablement, il y a une urgence.
Il y a urgence à organiser la riposte contre le cybercrime organisé. Une cyberattaque toutes les 14 secondes à travers le monde. 9 entreprises françaises sur 10 confrontées au problème l'année dernière. Mon invité à 6h40, Bernard Spitz, président de la commission cyber-risque du Club des juristes, qui dévoile un rapport exclusif et en appelle au chef de l'État. À 6h20, l'inattendu nous replonge 20 ans en arrière dans une autre révolution, pour le meilleur ou pour le pire. Le 27 avril 2001, la France se réveillait pour la première fois dans l'ère de la télé-réalité avec la diffusion de l'émission Lost Story. On plongera dans les coulisses. Jusqu'à 7h, la revue de presse internationale nous emmènera aux États-Unis. États-Unis, en Chine et en Angleterre. Et puis, comme tous les jours, notre respiration musicale, Omblin, nous fera écouter le rappeur américain Tupac ce matin.